amiante, thalidomide, Alzheimer, polychlorure de vinyle, rayonnement électromagnétique, mercure, mycotoxine, gaucho, régent, vache folle, grippe aviaire, plombage dentaire, Académie des sciences, Céveso, brevet, industrie pharmaceutique, INSERM, INRA, AFSAP, SAPS, nanotechnologie, phtalate, perturbateur endocrinien, éther de glycol, heptachlore, 4-terbutylphénol, diéthyle, stilbestrol, sel, sucre, téléphone portable, etc. La liste est très longue. Quel est le point commun entre tous ces noms? Ils sont tous dans le livre, donc Alerte Santé, sous-titré Experts citoyens face aux intérêts privés, d'André Cicolella et de Dorothée Brenois-Bowes. Alors, André Cicolella est chercheur en santé environnementale. Il est spécialiste de l'évaluation des risques. Il est également à l'origine de l'action de l'AFSE. L'AFSE, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement. Et Dorothée Brenois-Bowes, qui a coécrit ce livre aux éditions Fayard, qui appartient peut-être à Serge Dassault, d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, ça appartient à Serge Dassault. Donc, et Dorothée Brenois-Bowes est journaliste scientifique. Donc, j'ai rencontré André Cicolella, il nous a parlé des lanceurs d'alerte et de leur protection. On a déjà parlé de ce sujet il y a 15 jours en diffusant une conférence de Jacques Testard. Mais on va parler également lobbying industriel et chimique, conférence citoyenne, démocratie, directive européenne. Mais on va commencer par un état des lieux et peut-être par les objets du livre. C'est-à-dire quels sont les enjeux de la santé environnementale et de présenter peut-être une nouvelle approche de la santé publique.
On a voulu faire parler effectivement de l'enjeu autour de la santé environnementale. Ça, c'est l'introduction s'appelle « Pour une deuxième révolution de santé publique ». Ça signifie effectivement qu'aujourd'hui, face aux problèmes de santé qui sont les nôtres, c'est-à-dire principalement une situation épidémique pour un certain nombre de maladies comme le cancer, et j'emploie volontairement le mot épidémie parce que il est connoté, parce qu'il signifie évidemment dans un premier sens épidémie infectieuse, au sens des grandes épidémies type peste et choléra, mais il signifie aussi, au sens moderne du terme, nombre considérable de maladies. Ça, c'est la définition du dictionnaire médical. Et s'agissant du cancer, on sait que c'est un homme sur deux, une femme sur trois. Donc ça veut dire, petit problème de fraction, deux couples sur trois, donc la majorité de la population qui est concernée, directement. Donc on est bien en situation épidémique, et on a une progression de l'incidence, donc du nombre de nouveaux cas de cancer depuis 20 ans, qui est connue, c'est plus 63%, et tout ça ne peut pas s'expliquer uniquement par le vieillissement. Puisque on sait que la part du vieillissement, du changement démographique, n'explique que 28%. Donc il reste 35% donc il faut baptiser environnement au sens large du terme, c'est-à-dire alimentation, comportement, environnement physico-chimique, travail, environnement domestique, environnement social aussi, puisque tout ça joue. Et on voit bien qu'il y a un enjeu donc considérable de comprendre ce que signifie effectivement quelle est la part de ces différents facteurs environnementaux pour pouvoir agir. Parce que comment va-t-on faire pour arrêter cette épidémie? Alors, il y a la stratégie du plan cancer qui consiste à dire on a échoué, mais on va continuer à faire comme avant. On ne change pas une équipe qui perd. Quoi. Et puis, il y a une autre stratégie qui est celle que l'on propose dans ce livre, qui est de dire il faut une politique sérieuse de santé environnementale parce que on ne peut pas tout attendre de progrès thérapeutiques qui, d'ailleurs, marquent largement le pas, parce que c'est un modèle qui est largement dans une impasse aujourd'hui.
D'accord, ça c'est pour le cancer, tu cites aussi l'Alzheimer.
Alors, c'est le cancer, oui, enfin, deuxième élément aussi pour expliquer que le cancer est vraiment une maladie de l'environnement. Hein, on a une croissance de l'incidence du cancer de l'enfance, une étude qui a été publiée en décembre 2004, donc qui donne 1% de progression par an depuis 30 ans, sur tous les pays d'Europe. Donc on voit bien que c'est notre environnement d'aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène de vieillissement, ce n'est pas un phénomène de tabagisme non plus, puisque par principe une leucémie à l'âge de 2 ans, c'est pas un effet de son tabagisme. Par contre, on sait que la littérature montre que le principal groupe de facteurs de risque, ce sont les pesticides. Donc on peut progresser, réduire, stopper l'épidémie, et je pense la faire reculer si on change de stratégie, si on a une politique sérieuse de santé environnementale. Alors c'est pas la seule épidémie, on peut parler d'épidémie d'allergie, notamment d'asthme, qui a doublé en 20 ans, on peut parler aussi de la progression d'Alzheimer. Alors là, on dit que c'est le phénomène de vieillissement, ben oui, bien sûr, mais sauf que une étude menée avec le registre des géos des pays nordiques a montré que l'Alzheimer s'explique pour moitié par des facteurs environnementaux. Et voilà. Et puis il y a d'autres épidémies dont on peut parler, comme l'obésité, parce que l'obésité, avec toutes les conséquences que ça a du point de vue des pathologies induites, notamment le diabète, enfin les maladies cardiovasculaires, et qui là est directement lié, on le sait bien, à l'alimentation, à la nourriture industrielle, au mode de vie sédentaire. Enfin,
oui. D'ailleurs, dans le livre, tu parles du régime crétois qui est un peu alors, mis en défaut.
Oui, on parle effectivement, d'ailleurs, avec les caricatures, même des jeunes crétois qui ayant adopté le mode de vie américain, deviennent comme des Américains, ce qui est quand même le paradoxe même. Mais on voit bien qu'il y a un enjeu et récemment, enfin il y a 8-10 jours, on a annoncé triomphalement qu'on préparait un vaccin contre l'obésité. Mmh. Et il y a un mois, on nous a annoncé tout aussi triomphalement qu'on avait un médicament contre l'obésité. On voit bien l'absurdité de la situation. On sait bien que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Ça se joue effectivement ailleurs et dans l'environnement. Et donc on arrive à faire face à ces épidémies si on ne change pas de stratégie.
Est-ce que employer le terme d'épidémie, c'est pas un peu justement rendre ces maladies déterminées par le hasard, on parlait tout à l'heure?
Non, bah, absolument pas. Non. C'est pour ça que je parle de deuxième révolution de santé publique, parce que la première, ça fait référence à la première, donc qui est moins connue, mais qui en fait ce qu'on appellerait première révolution de santé publique, ça a été la période de la fin 19e. où on a réussi à stopper les grandes épidémies infectieuses. À l'époque, c'était le choléra. On mourait encore de choléra à Paris dans les années 1850-1860. On a peine à imaginer ça. Hein. Et un événement fondateur très symptomatique de la première révolution de santé publique, c'est l'histoire de John Snow, donc ce médecin anglais qui, lors de l'épidémie de choléra à Londres en 1855, a fait un premier travail d'épidémiologie, d'où le nom, le lien épidémie-épidémiologie, c'est venu de là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail très simple. Il a mis sur une carte la répartition des cas de choléra. Et il s'est aperçu que ce n'était pas du tout homogène. Et notamment, il a suspecté très vite un agrégat, un cluster, comme on dirait aujourd'hui, de cas autour d'une pompe, qui était la pompe de Broad Street. Et il a fait à ce moment-là l'hypothèse que c'était l'eau qui était le vecteur, alors qu'à l'époque on pensait que c'était l'air. Et bien sûr, on l'a pas écouté. Et donc il a mis hors d'état de fonctionnement la pompe.
Hors la loi donc.
L'épidémie s'est arrêtée autour de Broad Street. Alors on sait aujourd'hui que la pompe de Broad Street pompait son eau à la sortie des égouts. Donc
on a une explication.
C'était une explication évidemment non rationnelle, mais ça montre bien que on peut agir sans avoir tout compris, mais déjà en ayant fait un travail scientifique. Et moi, je fais le rapprochement entre ce travail-là et le travail qu'ont fait les riverains des usines d'incinération de Nivillac ou de Gilly, qui ont sur une carte rapporté les cas de cancer autour de l'usine. Et je fais le rapprochement avec le comité de chômeurs de l'usine d'incinération de Fumel, qui a été effectivement arrêté, mettre hors de fonctionnement l'usine qui polluait. Donc acte illégal évidemment, mais la pollution est-elle tout aussi illégale? Donc on a un rapport, je trouve qu'il y a un télescopage des deux situations tout à fait symptomatique, tout à fait fort du point de vue signification. Et donc cette première révolution de santé publique a permis de faire reculer toutes les grandes pathologies, y compris la tuberculose par exemple, avant la découverte de la pénicilline. Alors après, il y a eu la vaccination, il y a eu les antibiotiques qui ont effectivement fait progresser aussi les choses. Mais les grandes épidémies disparaissent à partir du moment où on a traité le problème de l'eau, principalement. Donc c'est principalement les égouts et l'eau courante. Ça apparaît d'une banalité aujourd'hui, mais c'est un progrès extraordinaire. Et ça a été l'œuvre, non pas de médecins, mais d'ingénieurs qui se sont battus effectivement pour doter les grandes villes de ce système. Et donc ils ont fait la première révolution de santé publique de cette façon-là. C'est une révolution qui reste encore à faire dans les pays du Sud. La première cause de mortalité de l'enfant, c'est la diarrhée. Donc c'est typiquement la qualité de l'eau. Des millions de morts qui peuvent être évitées très facilement. Et donc on est dans une situation un peu de même nature. C'est-à-dire qu'on a un environnement aujourd'hui qui est un environnement chimique, qui est un environnement marqué par la pollution électromagnétique, et un environnement médical aussi, qui a induit des effets secondaires. Et cet environnement, l'environnement de la nourriture d'aujourd'hui, c'est cet environnement qui cause largement des grandes pathologies d'aujourd'hui. Et donc, il faut agir sur cet environnement pour progresser.
Est-ce que, quand tu parles de la situation il y a un siècle et de la situation maintenant, les problèmes ne sont pas les mêmes, mais il y a des problèmes de santé qui apparaissent, et les conséquences, donc la destruction soit de la pompe dont tu parlais, soit de la destruction de l'outil de travail, c'est aussi une des conséquences de cette agression sur la santé. Et est-ce que les choses ont vraiment changé en un siècle
Entre les deux, si je peux dire, il y a eu effectivement la révolution biomédicale. C'est-à-dire que, principalement depuis la guerre, l'idée s'est peu à peu imposée que, l'équation plutôt soins égale santé égale médecine. Bon, c'est une équation qui est fausse. La santé, c'est beaucoup plus large que le soin, et le soin, c'est plus large que la médecine. Alors, ce qui ne veut pas dire que la médecine n'a pas de rôle à jouer. Mais une politique de santé, c'est une politique de soins, c'est une politique d'environnement, c'est une politique d'éducation. Je pense qu'il y a trois piliers dans une politique de santé. Et aujourd'hui, on a une politique qui est bâtie sur un seul pilier et qui arrive à ses limites. C'est-à-dire ça mériterait un développement encore plus large, qui nous éloigne un petit peu du livre, mais qui est en fait quand même la thèse centrale du livre, c'est que la santé environnementale doit être centrale dans une politique de santé.
D'accord.
Mais que, quand on pose le problème de la relation entre santé et environnement, on met forcément en cause les activités productrices de risques. C'est-à-dire que ça n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait objectif. Toute activité engendre des risques, engendre des bénéfices aussi. Hein. Et donc, il faut faire cette évaluation coût-bénéfice pour décider quels sont les risques qui sont acceptables et quels sont ceux qui ne le sont pas. Et quels sont les bénéfices qui sont de vrais bénéfices et d'autres qui ne le sont pas. Et donc tout ça, c'est un changement aussi démocratique. Ça renvoie à la place des débats autour des scientifiques et techniques. Et là aussi, on sort de cette période où on est en train de sortir de cette période où ces choix scientifiques étaient imposés sans qu'ils viennent l'idée que ça puisse on puisse demander l'avis des citoyens sur telle ou telle technologie. Alors quand on voit faire comme les portables, par exemple, les effets des champs électromagnétiques émis par les portables, bien, ça, c'est un sujet qui devrait être l'objet d'un débat dans la société. Quel est le bénéfice par rapport au risque?
Mais il y a des instituts, des conseils pour ça, pour évaluer les risques.
Il y a effectivement, ça c'est un changement récent, la création des agences de sécurité sanitaire, mais justement, enfin, c'était un point qu'on a pointé, effectivement, une question qu'on a pointée dans le livre, c'est-à-dire que ce dispositif est loin d'être achevé, et en plus, il souffre d'un déficit d'éthique. C'est-à-dire qu'on fait comme si les gens étaient automatiquement vertueux, comme si les intérêts industriels n'avaient pas pour vocation d'essayer de faire en sorte que tout ce qui pourrait les gêner soit un peu mis sous le boisseau. Donc il y a un vrai problème autour de l'éthique, autour de la déontologie et de l'expertise. Je pense qu'il y a un enjeu considérable autour de l'expertise. Ça, c'est la thèse une des thèses du livre, et c'est une des conclusions. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation par rapport à cette question d'expertise, un peu similaire à celle de la société française d'il y a 30 ans, au moment du développement de l'informatique. En 75, on sait, il y a eu une grande sensibilisation dans l'opinion, parce que on avait des plans de fichage généralisé de la population. Évidemment, officiellement, dans le souci de protéger cette population. Et ça a créé un vaste mouvement d'opinion. Et à ce moment-là, on a créé la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour encadrer, effectivement, l'utilisation de l'informatique. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation de même nature. Il faut une CNIL de l'expertise. On ne peut pas, un comité... Trucmuche ne peut pas s'autoproclamer ou être autoproclamé, autodésigné comme étant seul porteur de vérité. Bon, on a une caricature récente, c'est le dernier avis de l'AFSE sur les champs électromagnétiques. C'est un avis qui ressemble comme deux gouttes d'eau au précédent avis émis deux ans avant, et bien, avec toujours la même recette, c'est-à-dire pour avoir un avis unanime, et bien, on élimine ceux qui ne sont pas d'accord. C'est vraiment une méthode simpliste. Mais pour l'instant, ça marche, puisque ça permet pendant des semaines de dire l'AFSE est formel, il n'y a pas de risque lié aux champs électromagnétiques émis par les portables. Alors, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que c'est évidemment nettement moins clair et qu'il y a des raisons, au contraire, beaucoup plus sérieuses de se préoccuper de ce problème.
Et je voudrais revenir un peu sur les différences qui existent entre il y a un siècle et maintenant. Tout à l'heure, on parlait des effets sur la santé et des lanceurs d'alerte. Est-ce que le but, c'est de, qu'il n'y ait. On va définir ce que c'est qu'un lanceur d'alerte.
Oui.
Et est-ce que le but, c'est qu'il n'existe plus? Parce que quand ils existent...
Je crois qu'il y aura toujours une situation d'alerte, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, tout anticiper. Et puis, il y a une intelligence collective qui est forcément supérieure, dans certains cas, en tout cas, à des intelligences d'organisation, en fait. Donc, on a un tel enjeu autour de ces questions qu'il faut se donner le maximum de chances, effectivement, d'être perspicace, de repérer, effectivement, des problèmes qui n'auront pas été repérés. Bon, je citerai Vincennes, puisque là, tout à l'heure, on va aller faire une réunion à Vincennes, à l'invitation du collectif de parents d'élèves qui a soulevé, qui a été lanceur d'alerte, au sens où il a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait 3 cas de cancer de l'enfant dans une école maternelle. Et en faisant le rapprochement avec le fait que cette école a été construite sur une ancienne friche industrielle, les terrains de l'usine Kodak. Donc, a priori, effectivement, s'il avait fallu avoir une démarche scientifique classique pour se poser cette question, il aurait fallu avoir des expérimentations avec les 600 produits utilisés par Kodak et dont un certain nombre se retrouvent dans le sol. Et bon, on voit bien que c'est tout à fait impensable. Donc, on sait par contre que des friches industrielles peuvent dégager, avoir des émanations qui peuvent induire ce type d'effet. Il y a un cas que l'on cite dans le livre, qui est un cas qui est arrivé à Helsinki, où une cité avait été construite sur une ancienne friche, une ancienne décharge. Eh bien, on s'est aperçu au bout de 10-15 ans qu'on commençait à avoir un taux d'asthme plus élevé et un taux de cancer plus élevé. Et donc la décision a été radicale, on a rasé cette cité. Mais enfin, on est en Finlande et on prend beaucoup plus au sérieux les problèmes de santé environnementale. Mais ça montre bien effectivement qu'un environnement de ce type peut induire des effets tout à fait sévères. Et donc on peut repérer ce type de phénomène à partir d'observations de ce genre. Enfin, en disant on a 3-4 cancers, ça me semble tout à fait anormal. Alors je crois qu'il y a un enjeu démocratique. Quand un groupe de citoyens pose des questions, on doit lui répondre. C'est élémentaire, je dirais. Parce que ce que l'on ne fait pas, il faut effectivement aujourd'hui manifester, faire des pieds et des mains pour commencer à avoir un début de réponse. Et donc je pense qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, déjà au niveau démocratique. Et puis donc il y a un enjeu scientifique. On peut, à la faveur de cas comme cela, progresser dans la connaissance, dans la relation entre santé et environnement, qui est une relation extrêmement complexe. Et qu'il est difficile de décrypter.
Et pourtant, à Vincennes, ils ont bien obtenu une réponse.
Ils ont obtenu une réponse, mais la réponse a été effectivement en termes d'études, études qui a confirmé qu'il y avait bien un excès, mais on leur a toujours donné la réponse que ça ne pouvait être que lié au hasard, ce qui est une réponse un peu jésuitique, parce que effectivement, quand on dit c'est lié soit au hasard, soit c'est pas lié au hasard, on donne l'impression que c'est du moitié-moitié. Or, dans un cas comme celui-là, la proportion n'est pas à moitié-moitié. Elle est, puisque le risque est très significatif, donc il est très peu probable que ce soit lié au hasard et fortement probable que ce soit lié à d'autres facteurs environnementaux. Difficile pour l'instant de les identifier. Ceci étant, quand on commence à trouver du chlore de vinyle dans la nappe et donc dans les caves, on a des pistes. Et donc, il faudrait effectivement continuer de faire ce travail. À la fois donc dans un souci démocratique, mais aussi dans un souci de progresser dans la connaissance scientifique. Sniff, farine, animal. Oh non. Sniff, farine, animal. Oh ben ça va. Sniff, farine, animal. Ça te pousse, c'est de la bonne. C'est du roots, yes, de l'authentique, du typique. Je vois mon clone dans l'arrière-boutique. English beef, légalise. Poulet belge, légalise. Salmonelle, légalise. English beef, légalise. Belge, salmonelle,
la bonne défense rurale, c'est du rousse. Yes, de l'authentique, du typique. Je vois mon clone dans l'arrière-boutique. Sniff.
Voilà, vous êtes sur FPP, vous écoutez les oreilles loin du front jusqu'à 20h30. C'était Java, Sniff, farine animale. Alors, farine animale, dioxine, poulet belge, salmonelle, tout ça, c'est dans le livre d'André Cicolella et Dorothea Brouwers, Alerte Santé. Maintenant, on va aborder un peu le problème des groupes de pression.
On va peut-être parler un peu des lobbying et des pressions qui existent sur les différents comités qui sont formés. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Est-ce que des comités de spécialistes en arrivent à pas dire qu'il y a un risque ou à le négliger ?
Parce que c'est très complexe. Il y a forcément personne d'un niveau pointu sur l'ensemble d'un phénomène. Quand on connaît un problème, on connaît une petite partie du problème, puis après on se fie à ce que le spécialiste d'à côté peut dire. Donc va jouer, rentre en considération la conviction que les scientifiques peuvent avoir par eux-mêmes sur tel ou tel problème. Et donc dans des cas comme cela, on le voit bien, je veux dire, ça conduit effectivement l'Académie des sciences, par exemple, l'Académie de médecine, à faire des rapports expliquant que l'amiante ne posait pas de problème ou que la dioxine ne posait pas de problème. Le rapport de l'Académie des sciences sur la dioxine a été fait par un comité composé pour moitié de gens qui travaillaient pour Atochem à l'époque, donc pour une industrie directement concernée. On a eu ce type d'aberration, là encore, et donc c'est pas parce que quelqu'un est scientifique qu'il est par nature vertueux. Je veux dire, ça c'est le mythe du savant républicain. Je sais pas si ça a jamais existé d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut savoir que les gens ne sont pas vertueux par nature. Ils sont vertueux parce qu'ils sont dans des situations où ils sont conduits à être vertueux. Hein, je crois que c'est ça. Et donc, il faut effectivement bien encadrer les processus d'expertise et sanctionner aussi les manquements à l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ça en toute impunité. Il n'y a aucune conséquence.
Et est-ce qu'il existe encore des scientifiques qui agissent au sein des agences avec leur intime conviction ?
Alors, dans les agences, je pense que la majorité des gens qui travaillent dans les agences sont des gens, effectivement, qui sont convaincus. On ne fait pas ce travail-là par hasard. Mais le contexte dans une agence fait que, hein, on sait effectivement les limites à ne pas dépasser. Il y a tout un... C'est très variable. Hein. Je ne mettrai pas sur le même plan l'AFSE. Et encore, c'est encore sorti un rapport sur les particules qui était tout à fait, qui n'a pas été critiqué, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il était, il a été à mon avis fait sur des critères d'éthique. Ça s'est doté effectivement de procédures aussi, et d'une façon générale, les avis de l'AFSA ne sont pas trop critiqués d'ailleurs, ils sont critiqués par l'industrie d'ailleurs. Le rapport ça sur le sel a remis les choses en place sur le véritable impact de l'excès de consommation de sel et sur les conséquences sanitaires extrêmement importantes, puisque l'excès de sel aujourd'hui est responsable de 25 000 morts par hypertension, ce qui est quand même considérable.
Et compte tenu des décisions qui sont rendues par ces agences, à quoi ça sert une agence?
Une agence comme l'AFSA a rendu, je pense, à peu près 400 ou 450 avis. Hein. Donc, tous n'ont pas une publicité. Mais il y a un travail énorme, en fait, pour l'évaluation, travailler sur la méthodologie de l'évaluation. Ça n'est pas simple de répondre à une question. Quel est le risque? La question est simple à poser, mais elle est difficile. Il est difficile d'y répondre. Et en plus, on a des outils, on a des connaissances scientifiques fondamentales qui sont encore très, très limitées. Par exemple, on ne sait pas évaluer l'impact d'un mélange. Ça peut sembler étonnant, mais parce qu'en fait, la population humaine est exposée à des mélanges par principe. Et donc, on ne sait pas évaluer. On fait des hypothèses très, très simplistes du genre, on peut penser que c'est une sommation. Mais on le voit sur des problèmes comme des toxiques, comme les perturbateurs endocriniens. Ces modèles-là ne marchent pas très très bien.
Précise ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien.
Ce sont des substances qui agissent sur la messagerie hormonale. Et donc qui agissent à des niveaux qui perturbent en fait le fonctionnement de cette messagerie. Et qui agissent à des niveaux effectivement extrêmement faibles. Et donc... On a là un regard à porter sur ce type d'exposition et on sait effectivement qu'on peut être polyexposé à ces substances sans problème.
Et concernant les agences, est-ce que c'est bien de les conserver, d'ailleurs, est-ce que les réformer ou est-ce qu'il faut les remplacer, faire autre chose avec?
Il faut continuer la réforme qui est en cours. Il faut donc régler cette question de l'éthique, enfin, se dotant d'une haute autorité de l'expertise. Et je pense qu'il faut un nouveau statut des agences. Je ne parle pas des institutions qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des institutions qui sont des associations 1901, par exemple. Là on est dans la caricature, parce que par principe, il y a un conflit d'intérêts. Mais pour les établissements publics à caractère administratif, je crois qu'il faudrait effectivement, l'expérience montre qu'il y a des problèmes aussi de réactivité, de fonctionnement, et que ça doit la principale qualité de ces agences doit être la réactivité et l'inventivité, enfin l'innovation, une très grande capacité de saisir des alertes, de les transformer, de les traiter. Donc il faut effectivement des règles de fonctionnement qui soient beaucoup plus adaptées. Et donc, moi, je suis favorable à un nouveau statut d'établissement public à caractère de sécurité sanitaire.
Ça peut exister, ça?
Oui, c'est pas que ça peut, ça existera.
les autres personnes qui sont citées dans le livre concernant leur mauvais travail, mais enfin, c'est un peu ça, c'est qu'on n'a pas fait leur travail. Au niveau des médecins du travail, par exemple, on aurait pu penser que c'était eux sont en première place pour lancer le
travail. On a évoqué la médecine du travail de façon positive avec le travail fait par le groupe des 10 médecins du travail de Bourg-en-Bresse, qui fait un travail remarquable, qui applique effectivement les circulaires et la réglementation, qui fait un rapport annuel au ministre du Travail. Ce dont celui-ci, à mon avis, tient peu compte. Mais il montre, ce sont des lanceurs d'alerte aussi à leur façon, c'est-à-dire qu'ils montrent comment pourrait fonctionner effectivement un autre système de médecine du travail, et plus largement de santé au travail. Et parce que voilà une institution où on a, là aussi jusqu'à la caricature, un conflit d'intérêts majeur, puisqu'elle est gérée par les employeurs, donc les producteurs de risques. Alors si ça marchait, on pourrait se dire très bien, mais on a quand même avec l'amiante, c'est une institution, un exemple, c'est une institution qui n'a pas été capable de repérer un phénomène qui va être cause de 100 000 morts. Donc, alors qu'est-ce qu'il en est des phénomènes à moins de 100 000 morts, quoi? Donc, ça n'est pas une question de personne, c'est une question de structure, de statut. Et donc là, je crois qu'il faut effectivement, ça fait partie des conflits d'intérêts à prendre en considération. Et l'évaluation des risques qui est menée par les médecins du travail, ou plus largement les professionnels de la santé au travail, doit pouvoir se faire dans des lieux qui soient protégés du point de vue de l'éthique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
et les syndicats, parce que dans les entreprises, il y a quand même des syndicats qui sont là pour défendre
alors,
les salariés.
Les syndicats, une question de santé, les syndicats, alors on a abordé aussi cette question parce que le comité permanent amiante était un comité dans lequel participait l'organisation syndicale, sauf Force ouvrière d'ailleurs, qui avait refusé de façon assez juste. Mais les autres étaient effectivement directement impliqués avec les représentants des ministères et l'industrie de l'amiante. Et au motif que la priorité, c'était l'emploi. Et donc, on a vu que cette stratégie a mené, dans le cas de l'amiante, comme dans d'autres cas, on peut penser à Métal Europe, par exemple, a mené à la fois à perdre l'emploi et la santé. Donc, on a perdu sur les deux tableaux. Moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, on ne préserve l'emploi que si on se bat sur la santé. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et on a des exemples. Et les sections syndicales peuvent être effectivement des lieux d'alerte. Si elles se saisissent de ces questions, l'exemple de l'usine Adisseo de Commentry, où c'est la section syndicale qui a alerté sur 10 cas de cancer du rein qui a été survenu dans cette... Alors bon, la formation des syndicalistes est ce qu'elle est, et à mon avis, il aurait été important effectivement de pouvoir alerter avant le 10e cas, parce que c'est tout à fait anormal. C'est totalement anormal. Mais ça montre effectivement qu'il y a des... Il y a des possibilités. Les sections syndicales ont une légitimité à lancer l'alerte. C'est même dans leur mission, d'ailleurs. Au moins les CHSCT, où elles sont présentes. Et on y peut imaginer ce que donnerait effectivement un mouvement syndical beaucoup plus conscient, formé, organisé, pour porter ces questions de risques sanitaires.
Et oui, c'est vrai qu'avant, les revendications syndicales étaient essentiellement salariales. Aujourd'hui, les questions de santé sont indissociables des revendications.
Alors, il y a toujours eu un mouvement de prise en compte des questions de santé au travail. Mais, je fais référence notamment au travail que mène le délégué CGT au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Jean Hautebourg, qui a fait un livre sur le cancer professionnel, qui a joué un rôle important pour sensibiliser effectivement sa confédération à cet enjeu des cancers professionnels, qui sont quand même des cancers qui touchent les ouvriers.
Oui.
Et donc la partie professionnelle est importante dans ces cancers. Donc il y a des gens qui se sont battus, mais ils n'ont pas eu, à mon avis, suffisamment... l'écoute de l'ensemble de leur structure. Et donc ça, c'est un enjeu aujourd'hui.
Et on peut aller au-delà aussi, parce que la définition de l'OMS concernant la santé, c'est un état de bien-être, donc ça va au-delà de l'absence de maladie.
Tout à fait. Santé, il faut voir la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, ce n'est pas le soin. La santé, c'est effectivement un état de bien-être. C'est la capacité, par la définition, c'est la capacité des individus à gérer leurs contradictions. Donc c'est un enjeu évidemment ambitieux, mais qu'il faut avoir. C'est la capacité finalement qu'ont les gens de vivre en société.
Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, les oreilles loin du front jusqu'à 20h30. Et Jérémy, donc on continue ce dossier.
On continue ce dossier avec André Chicolella pour son livre Alerte Santé. Là, on vient d'évoquer les syndicats. Et il y a également des grands instituts nationaux qui existent, comme l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, qui disposent, eux, au sein de ces instituts, des comités. Et comment ces comités arrivent à influer sur leur fonctionnement, sur les axes de recherche, et quel est le rôle des experts au sein de ces différents instituts nationaux?
On a regardé le fonctionnement des comités d'éthique de ces organismes. Ce sont des structures faibles, et qui revendiquent elles-mêmes d'être faibles, consultative, et donc jamais la question des lanceurs d'alerte n'a été traitée dans ces comités. Et ça, c'est quand même très symptomatique, alors que ça devrait être au cœur de leur pratique. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut effectivement réformer ces comités, faire en sorte que leur fonctionnement soit défini par leur fonction de principe, élaboré par l'autorité de l'expertise, et que celle-ci soit à même de contrôler, qu'on lui fasse qu'elle soit par autosaisine, soit qu'elle ait aussi des rapports annuels sur le fonctionnement des comités d'éthique. C'est-à-dire, ce qui est très curieux aujourd'hui, c'est que personne ne se préoccupe de l'éthique des comités d'éthique. Ils sont par principe, ils sont vertueux, puisqu'ils se sont, ils portent le nom. Donc tout ça, ça n'est pas le fait du hasard. Je crois que c'est parce que ça laisse effectivement une très grande liberté de manœuvre et de confusion des rôles.
Et pourtant, il y a quand même des, enfin, tous ces instituts nationaux rendent des rapports et des, font des expertises qui ont parfois des conséquences.
Tout à fait. Tout à fait. Bon, l'INSERM avait lancé une opération, des opérations d'expertise collective. Alors, il y a eu des sorts tout à fait variables à différentes expertises. Mais les pressions qu'a subi Paul Janiot, qui était responsable de l'unité d'expertise, qui a conduit l'expertise sur l'amiante, et cette expertise sur l'amiante a joué un rôle important puisqu'elle a conforté la demande des organisations d'interdiction de l'amiante. Et donc, ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que le ministre de l'époque, Claude Allègre, était intervenu pour changer pour intervenir dans le contenu du rapport. Donc, une intrusion tout à fait incroyable, mais qui est compte tenu des enjeux par rapport à, notamment par rapport à Jussieu. Donc, on voit bien que s'il n'y a pas effectivement une protection blindée des comités d'experts, c'est soumis effectivement à des pressions de ce genre. J'ai vécu moi-même, par contre, une position du deuxième comité d'expertise, la deuxième unité finalement chargée d'organiser ces expertises collectives, celle de Jeannette Tiemble. On m'avait refusé la participation à l'expertise sur les terres agricoles, au motif que je connaissais trop bien le dossier. Je trouvais ça extraordinaire. On m'avait dit, vous risquez d'influencer les autres membres de l'expertise.
Qui sont parfaitement neutres, les autres.
Qui, eux, étaient censés ne pas connaître le dossier, donc être parfaitement neutres, comme si c'était la critère.
Et les experts qui ne connaissent pas le dossier, ça...
Et donc, ça a donné, effectivement, une expertise très critiquable, puisqu'elle a répondu à la question quels sont les risques voilà les dangers. Donc, sans vouloir répondre, finalement, au risque, c'est-à-dire à la probabilité d'occurrence des effets, ce qui était ça la vraie question, ce qui a permis effectivement aux autorités de tutelle de continuer comme avant et de dire on peut continuer d'utiliser ces substances, alors que la seule solution logique, c'est celle qui de fait se dessine d'ailleurs, c'est l'interdiction, puisqu'on ne peut pas utiliser ces substances sans exposer la population à des risques importants.
Alors, est-ce que tu peux repréciser les conséquences de l'utilisation des éthers de glycol?
Ces éthers de glycol toxiques sont des toxiques de la reproduction. Et donc, au niveau d'exposition où se situent les consommateurs et encore plus les travailleurs, donc pour les plus toxiques, on a des indices de risque, ce qui nous donne un ordre de grandeur. On juge par rapport à la valeur 1, on a des estimations de risque qui donnent des valeurs qui peuvent parfois aller jusqu'à 1000 ou 10 000, ce qui est considérable. Donc ça veut dire qu'une femme enceinte ayant utilisé, par exemple, un médicament contre l'acné qui était formulé avec un éther de glycol tératogène, c'est-à-dire qui induit des malformations, se retrouvait avec un indice de risque d'ordre 2000. Donc le risque pour l'embryon, le risque de malformation, dans ces conditions-là, était très élevé. Même calcul pour des utilisations de peinture comme la peinture AVI 3000 qui contenait 0,9% de méthylglycol qui induisait un niveau de risque, un indice de l'ordre de 2000. Et ça, c'est ce travail qui a été fait après par notre comité d'expertise dans lequel j'ai participé, du Conseil supérieur d'hygiène publique, qui a conforté tout à fait l'analyse que j'avais faite avant. Mais ce travail-là n'a pas été fait par expertise collective de l'INSERM parce que personne n'était là pour poser la question de la méthode.
Oui, parce qu'il faut dire que aussi les conséquences des expertises, elles sont directes et prendre une position, ça implique un...
La conséquence de l'expertise est effectivement importante. Si le comité d'experts dit... l'indice de risque est très nettement supérieur à la valeur acceptable, c'est difficile pour le gestionnaire de risque de rien faire. Les experts ont là une responsabilité. Je pense que on ne peut pas continuer dans une situation d'impunité où finalement ce qui est recommandé, c'est de pas absurde.
ferme à feu.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, vous n'êtes pas sur Radio Vatican. Alors si je parle de Radio Vatican, c'est parce que Radio Vatican, on savait qu'écouter Radio Vatican, ça rendait con. Mais là, dans le livre d'André, on apprend également que ça donne le cancer. Donc ça fait deux raisons des Fréquences Paris Pluriel. On va terminer l'entretien avec André en parlant un peu des acteurs, des modes d'action et aussi de l'association Robin des Toits. Il y a eu une condamnation qui a été rendue lundi. Bon, André va en parler. Donc on termine cet entretien en parlant des acteurs et de la fondation Sciences Citoyennes.
Le livre a pour but aussi de dire que les citoyens aujourd'hui sont des acteurs mineurs. Le jeu se joue à trois, industrie, scientifique, pouvoir public. C'est un jeu biaisé par l'influence de l'industrie. Qui est parfaitement légitime à essayer de défendre ses intérêts, d'aller le plus loin possible, bon, dans sa logique qui est celle de produire des biens et des services, c'est sa logique. Ce que je conteste, c'est le droit qu'elle s'est arrogé de dire ce qui est bon pour la santé publique ou pas. C'est pas à l'industrie de le dire. Par contre, c'est aux citoyens de le dire. Et donc de le dire après que leur point de vue soit éclairé par l'expertise. Et donc, c'est ce processus qu'il faudrait effectivement mettre en œuvre. Est-ce que c'est vraiment utile de, par exemple, on a parlé des nanotechnologies, hein, voilà un problème qui monte. Est-ce que c'est utile d'avoir des crèmes solaires à base de nanomatériaux, alors qu'on peut penser que ces nanomatériaux pénètrent la peau puisqu'ils sont effectivement de petite taille et pour aller se loger dans différents organes. Bon. Là, il faut peut-être réfléchir. Est-ce qu'on peut pas continuer avec nos crèmes solaires à l'ancienne? Alors, il peut y avoir des bénéfices, mais il faut les examiner et voir si le jeu en veut la chandelle, en fait. C'est toujours ça, la question. Mais encore faut-il, effectivement, qu'il y ait information des citoyens. Donc, il y a des procédures qui existent dans des pays comme le Danemark, par exemple, qui ont existé en France. Il y a eu deux cas sur les conférences de citoyens. Donc je crois qu'il faudrait effectivement, dans le cas des nanotechnologies, par exemple, une conférence de citoyens pour éclairer sur les enjeux. C'est des enjeux considérables. On est en train de lancer des programmes d'investissement de plusieurs milliards d'euros et sans se poser la question des risques. L'Académie des sciences a fait un rapport sur les nanotechnologies. Il y a 7 recommandations. Il n'y en a pas une seule qui recommande de regarder les risques. C'est quand même extraordinaire. Alors que sa consoeur anglaise, au contraire, elle fait un excellent rapport où ces questions-là sont pesées, et elles préconisent, notamment aujourd'hui, d'empêcher toute dispersion dans l'environnement, parce qu'on ne maîtrise pas le devenir de ces substances dans l'environnement. Donc voilà, ça, il y a des choix de ce type-là. Il y a un rôle des comités, effectivement, d'experts, hein, mais il y a un rôle des citoyens, parce que c'est à eux de décider, in fine, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Dans une société démocratique, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et les choix scientifiques et techniques ne doivent pas échapper à la démocratie.
Et d'ailleurs, c'est, enfin, on peut peut-être parler du mouvement Sauvons la Recherche, là, c'était pour une autre recherche. La Fondation Sciences Citoyennes, dont on va parler, a pris une position autre. Enfin,
oui, je crois que j'ai regretté, moi, que le mouvement Sauvons la Recherche ne soit pas saisi de cette question. Ils sont restés sur une logique faites-nous confiance, donnez-nous des sous parce qu'on est des chercheurs et qu'on travaille pour votre bien. Ben oui, bon, c'est un modèle qui effectivement est dépassé. La recherche doit avoir effectivement servir aux besoins de la société. Alors, ça ne veut pas dire que chaque citoyen va être derrière chaque projet de recherche à donner son avis. Ça, c'est une caricature, c'est évidemment absurde. Mais on peut s'interroger, par exemple. Je donne un exemple. Aller prendre des photos de Titan, ça a coûté 3 milliards d'euros. Bon, ça fait de belles photos, incontestablement. Mais...
Titan satellite de Jupiter.
Voilà. Le coût du programme REACH pour tester les risques liés à toutes les substances chimiques qui forment notre environnement chimique, c'est 2,8 milliards d'euros, donc c'est la même somme. Bon, mais moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une consultation au niveau mondial, parce que c'est un problème mondial évidemment, pour savoir est-ce que c'est vraiment s'il y avait une priorité. Si on peut faire les deux, bah, tant mieux, ça fait travailler des gens pour aller prendre des photos de Titan. Mais la priorité, à mon avis, je pense que 99% de la population aurait répondu oui, on aimerait quand même bien savoir de quoi est fait notre environnement.
Là, tu viens de parler du programme REACH. Est-ce que tu peux préciser
Alors, le programme REACH, effectivement, illustre bien les réponses politiques qu'on peut amener si on fait de la santé environnementale une politique majeure de santé. Ce programme REACH, ça veut dire Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals. Hein. Donc, enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Ce programme vise à évaluer les risques liés aux 30 000 substances produites ou importées à plus de tonnes en Europe. Ce sont des substances qui ont été mises sur le marché avant les années 80, que l'on continue d'utiliser. Et pour lesquels, pour l'essentiel, on ne connaît pas l'impact. Il n'y a que 3% des substances qui ont été évaluées. Alors, on a des bribes, hein, de l'essence, on n'est pas. Mais globalement, sur les substances les plus utilisées, celles qui étaient produites ou importées à plus de 1000 tonnes il y a 10 ans, on n'avait que 7% des substances pour lesquelles on avait des données complètes. Donc, on est dans un état d'ignorance toxique réel. Et donc, on peut penser qu'une bonne partie de ces substances sont des cancérogènes ou des toxiques de la reproduction. Le contraire, c'est très étonnant. Donc, il va falloir les retirer. Mais en les retirant, on va améliorer effectivement notre état de santé, puisqu'on n'aura plus d'exposition. Donc, il y a un enjeu considérable. Alors, l'industrie chimique a fait un lobbying et continue de faire un lobbying important pour limiter notamment les substances, Alors, officiellement, ils sont pour REACH, mais dans les faits, ils essayent de faire en sorte de revenir sur ce projet de règlement. Et alors que c'est finalement un problème assez simple et qui n'est pas si coûteux que ça. On avait sorti des chiffres, l'industrie avait sorti des chiffres absolument faramineux de 300 000 emplois supprimés en Europe. Enfin, vraiment des... Bon, tout ça s'avère effectivement largement gonflé et a été dégonflé à partir d'un récent rapport qui est paru il y a un ou deux mois, qui estimait donc que le coût sera de l'ordre de 2,8 milliards d'euros sur 11 ans. Les bénéfices de total sur un an, c'est 9 milliards d'euros. Donc,
ça relativise un peu.
C'est pas. C'est même. On pourrait, à mon avis, aller beaucoup vite.
Le REACH, c'est un programme européen.
C'est un programme européen, mais qui va se faire. Il y a un programme similaire aux États-Unis. Il y a des liens qui se font via l'OCDE. Donc, c'est une affaire mondiale.
Je disais européen parce qu'en fait, je voulais faire une transition avec la Constitution européenne et la position de la Fondation Sciences Citoyennes sur la Constitution.
Il n'y a pas eu de position en tant que telle. D'accord. Je crois qu'effectivement, on voit bien. Enfin, moi, un projet comme REACH, c'est plaide effectivement pour plus d'Europe, mais ce type d'Europe. Pas une Europe de déréglementation, mais une Europe, justement, de réglementation. C'est tout à fait possible et souhaitable.
Un mot sur la Fondation Sciences Citoyennes.
Oui, elle a été créée il y a 3 ans maintenant, presque 3 ans, pour porter, justement, la problématique de la relation entre sciences et société. à la fois du point de vue des politiques publiques, du point de vue de la protection de l'alerte et des lanceurs d'alerte, et du point de vue du développement de l'expertise citoyenne. Donc je crois qu'en quelques années, on voit bien effectivement que ces questions sont devenues des questions deviennent des questions majeures. Et donc je crois qu'il y a un enjeu, à développer effectivement ces pratiques dans le milieu de la recherche, mais pas uniquement dans le mouvement citoyen, de développer une expertise aussi dans ce mouvement. On a récemment notamment à la fin de l'année dernière, on avait testé un débat Internet sur santé et environnement pour voir effectivement comment on pouvait construire un débat de ce genre. Ça a été quasi unanimement apprécié. Donc ça fait partie des initiatives que l'on va continuer. Ça a permis, dans la foulée, de faire en sorte qu'il y ait une campagne « Notre environnement, c'est notre santé » qui a regroupé 26 associations. Et donc voilà, je crois que ça fait partie du rôle que peut jouer effectivement la Fondation, sans vouloir se substituer au mouvement citoyen, mais d'y apporter sa contribution. Et puis aussi de porter effectivement une problématique comme celle autour de l'expertise. La revendication d'une haute autorité d'expertise est une revendication qui n'est pas évidente a priori. Il faut un peu réfléchir un peu à cette question. Et puis je pense que l'actualité, aujourd'hui, on apprend le jugement qu'a rendu hier contre Étienne Cendrier, qui est un lanceur d'alerte. Il a été poursuivi, par un opérateur et parce qu'il avait tenu des propos mettant en cause effectivement les opérateurs, et il vient d'être condamné à 9 000 euros. L'appel, il va faire appel, donc la bataille autour de l'appel va être extrêmement importante. Vraiment, moi, j'appelle à la mobilisation dès aujourd'hui, d'ailleurs, pour le soutenir, parce que c'est un combat qui en vaut peine.
Aussi l'association Robin des Toits.
Alors, il a fondé l'association Robin des Toits. Il a porté, alors pas seul, c'est un combat. Il y a eu Prix Artem au départ, qui continue dans son bas. Mais bon, quelles que soient les divergences d'appréciation des uns et des autres, et qui sont tout à fait légitimes, je veux dire, il y a toujours plusieurs façons d'envisager un combat. En tout cas, je crois qu'il faut effectivement que l'ensemble du mouvement citoyen se rassemble autour de la défense d'Étienne Cendrier, parce que là, il y a un enjeu, qui est l'enjeu de la protection des lanceurs d'alerte. Et il faut effectivement des gens comme Étienne Cendrier pour informer les citoyens, pour mettre la pression sur les institutions et notamment sur les agences pour porter la contradiction. Et c'est ça qui est en jeu, quoi. Et c'est ça qu'on a voulu, on a voulu faire taire. On veut le faire taire. Et en le faisant taire, c'est l'ensemble finalement des citoyens que l'on veut faire taire et des scientifiques, eux aussi porteurs de cette problématique. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Et je crois que plus la mobilisation sera forte, plus effectivement il sera possible de faire comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui condamner un lanceur d'alerte.
Voilà, donc c'était donc André Cicolella. Si vous voulez plus d'informations sur l'association Robin des Toits, d'ailleurs pour défendre Étienne Cendrier, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on reçoive les gens de Robin des Toits, donc incessamment sous peu, Marc Cendrier, son président, son fondateur aussi. Il y a plein de choses intéressantes à dire sur la téléphonie mobile. Des choses qu'on n'entend pas souvent d'ailleurs, puisqu'on ne les entend jamais, ces gens-là. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est des lanceurs d'alerte, c'est parce qu'en plus on veut les faire taire, parce qu'ils défendent des intérêts qui sont à l'encontre avec les biens de production, non, avec les services et les biens produits, notamment au niveau des téléphones portables et donc tout le marché qui existe derrière. Donc, Alerte Santé, c'est écrit par André Cicolella, qui est par ailleurs fondateur de l'association, de la Fondation Sciences Citoyennes, président de la Fondation Sciences Citoyennes. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Fondation, dont je n'ai pas l'adresse mail, science, ça doit être sciencescitoyenne.org, mais vous allez sur Google, vous tapez Fondation Sciences Citoyennes au pluriel, vous trouvez, c'est le premier lien. Et notamment donc des idées, André en a parlé, pour sauvons la recherche, donc pour une autre recherche. Et ce livre est écrit également avec Dorothée Benoît-Brouès. Dorothée Benoît-Brouès donc est journaliste scientifique et elle est cofondatrice de la revue électronique www.vivantinfo.com. Et ils organisent des débats à la cité universitaire une fois par mois. Là, c'est la pause pendant les vacances, mais ça reprend dès la rentrée, des débats très intéressants.
Voilà.
Ouais, bon, donc André Cicolella, Dorothée Benoît-Brouwers, Alerte Santé, experts et citoyens face aux intérêts privés. C'est aux éditions Fayard et ça coûte combien ça coûte 22 euros.